Le Monde aujourd'hui, ce vendredi 26 juillet 2024. Jean-Roger Billon, en direct de Washington, édition spéciale consacrée aux Jeux Olympiques de Paris au pied de la Tour Eiffel, le long des Champs-Élysées et de la Seine. Les Jeux de Paris débutent aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture apparaît comme le plus grand spectacle du 21e siècle. Bonsoir, bienvenue. Eh bien, c'est la fête à Paris avec l'ouverture des Jeux Olympiques. Une cérémonie de près de 4 heures le long de la Seine. La capitale française a revêtu ses plus beaux habits. Et les sportifs venus des quatre coins de la planète seront mobilisés jusqu'au 8 septembre. Je ne vous en dis pas plus. Eric Manirakiza nous présente ce que nous réserve ces Jeux pendant les trois prochaines semaines. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger. Tout à fait, cette cérémonie s'annonce comme le plus grand spectacle du 21e siècle pour ses organisateurs. Pour la première fois, une cérémonie olympique prend place hors d'un stade sur 6 km le long de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel où aura lieu le final de cette donc cérémonie. Nous avons en ligne depuis la ville Lumière Benjamin Bories de la Fédération protestante de France. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment vivez-vous personnellement l'expérience des JO en étant au cœur de cet événement le plus regardé de la planète ?
Alors, comme beaucoup de Français et de Parisiens, je vais vivre les Jeux depuis mon appartement chez moi. Ce qui me marque, c'est vraiment de voir l'effervescence au niveau même des bruits qu'on peut entendre par sa fenêtre, les hélicoptères qui défilent dans tous les sens. Déjà, des feux d'artifice qu'on entend au loin, donc on sent la liesse populaire qui commence à monter. Puis, je suis vraiment excité de voir que cette cérémonie va se tenir à quelques kilomètres de chez moi et de voir aussi les célébrités qui ont pu passer cet après-midi à Saint-Denis, Pharrell Williams, Snoop Dogg par exemple. On est vraiment touché d'être le centre de l'attention du monde.
Merci beaucoup Benjamin pour cette ambiance à Paris. Un peu moins de 7000 athlètes représentant les nations participantes vont défiler sur 85 bateaux aux couleurs de leur délégation. Les Grecs d'abord, les Français en dernier et de très nombreux artistes et des stars de la chanson comme Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion sont cités. Roger Montou est avec moi dans ce studio. Roger, l'impact de ces artistes sur ces JO.
Merci Eric. Écoute, la participation de stars internationales comme Aya Nakamura, vous l'avez dit, Lady Gaga et Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de VOA je dois le dire, un impact significatif sur l'image même et la portée globale de l'événement. Leur présence attire non seulement leurs fans inconditionnels, mais aussi un public plus large et qui pourrait ne pas être initialement intéressé par les Jeux Olympiques. Donc, soyons sûrs que ces artistes, en raison de leur renommée mondiale et de leur influence dans l'industrie musicale, ajoute une dimension, Eric, culturelle et spectaculaire à cet événement.
Merci Roger Montou. Les Jeux Olympiques, c'est le seul moment où on peut voir des gens courir pour une médaille. Alors nous avons joint à Ottawa, au Canada, Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant, pour savoir l'importance et le prestige de la médaille d'or et comment cet objectif influe sur la préparation et la performance des athlètes, ainsi que les chances de l'Afrique aux JO de Paris.
La médaille d'or symbolise d'abord la victoire, et la victoire, elle est le produit de l'être. Et ce produit-là, elle s'installe dans l'être, comme le dit les Grecs, et dans la chair de l'être, et en même temps dans l'esprit de l'être. Elle est, pour les, si vous voulez, les croyants, elle est éternelle et sacrée. Donc, c'est vraiment, sauf pour certains sports comme le football, et même au niveau du basketball pro, comme la NBA, le rêve de l'athlète, du basketteur, c'est de gagner une médaille d'or. Et là, c'est vraiment quelque chose d'éternel et de sacré.
Alors, l'Afrique est très présente dans ces JO de Paris. Quelles sont ses chances, Tarsis ?
Écoute, pour l'Afrique, ça sera presque la même chose que lors des précédentes éditions, notamment au jeu de, si vous voulez, de Tokyo en 2021. On vise évidemment des victoires en athlétisme, notamment au niveau des courses de fond. Et on a l'impression que l'Afrique est en train aussi de progresser au niveau des sprints. Mais c'est aussi une chance pour l'Afrique de constater qu'à ce moment-là, il y a d'autres sports qui peuvent produire aussi des médailles pour l'Afrique, notamment la natation, des sports aussi les sports de combat comme la boxe, le taekwondo et d'autres sports. Mais il faut dire que, bon, en ce qui concerne les sports d'équipe, ça sera très compliqué, c'est encore difficile, mais on compte peut-être du côté de l'Afrique du Sud, avec le rugby, on compte pour, on croit à un exploit du Maroc au niveau du football et d'autres pays, c'est ça. Mais il faut faire mieux que Tokyo, où on avait récolté 11 médailles. Donc l'Afrique vise d'aller au-delà de 11 médailles et pour une dizaine de pays qui récoltent toujours les médailles olympiques.
Tarsis Haririmana, journaliste olympique indépendant. Ces Jeux olympiques de Paris verront la participation de 10 000 athlètes. Parmi les participants, des dizaines de femmes venues de pays africains. C'est un reportage de Mohamed Youssouf avec le récit de Abdelrahman Dia.
Pour la première fois dans l'histoire, le Comité international olympique a annoncé avoir atteint la parité homme-femme sur le terrain de compétition lors des Jeux olympiques de cette année. Les athlètes féminines, qui ne représentaient autrefois qu'environ 2% dans les compétitions olympiques, sont désormais présentes en nombre égal à celui des hommes. Elle représentait 48% des athlètes aux JO de Tokyo il y a 3 ans. Plusieurs dizaines de femmes africaines participent à ces Jeux à Paris. Estie Olivier fait partie de l'équipe de canoë de l'Afrique du Sud. Elle participe aux Jeux olympiques pour la première fois après avoir manqué les Jeux de Tokyo en raison de problèmes de santé.
Je dois rester concentré et de ne pas me laisser submerger par la pression énorme que les Jeux olympiques apportent, mais de profiter de petits moments à chaque étape du chemin. Je suis juste contente d'arriver à Paris.
Le canoë n'est pas un sport populaire en Afrique. Cependant, des équipes de canoë d'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, d'Afrique du Sud et de Tunisie vont représenter le continent aux Jeux olympiques. Malgré les progrès réalisés par les athlètes féminines, elles continuent de faire face à de nombreux obstacles, notamment le manque d'égalité salariale, la discrimination et les mauvaises conditions d'entraînement. La coureuse de demi-fond kényane de 25 ans, Liliane Odira, qui participe aux 800 mètres, affirme que le chemin pour arriver à Paris a été long, mais que l'effort en valait la peine. En plus de remporter une médaille, elle souhaite battre son record personnel d'une minute et 59 secondes.
Partout dans le monde, on vous connaît, donc je pense que c'est un avantage. En matière de finances et de bien d'autres choses, nous savons comment les aborder et les gérer. En matière de santé, tout le monde veut être en bonne santé. Le sport est une belle carrière.
Le Kenya envoie une vingtaine d'athlètes féminines, deuxième après l'Afrique du Sud, qui en envoie 24. Les femmes africaines ont remporté 17 médailles à Tokyo il y a 3 ans et espèrent en récolter davantage en France.
Enfin, voici ces Jeux olympiques de Paris en quelques chiffres. Des milliards de dollars, des millions de touristes, des milliers d'athlètes et de membres de forces et de sécurité. Durant les 3 prochaines semaines, la capitale française sera le centre de 7 grandes manifestations sportives. C'est un reportage de Lisa Bryant. Le récit est de Jacques Aristide.
La ville lumière, comme jamais vue auparavant, 15 millions de visiteurs, plus de 10 000 athlètes, d'innombrables vedettes et de dirigeants mondiaux, une cérémonie d'ouverture sur la Seine, chose inédite pour les Jeux Olympiques d'été, car pour la première fois tenue en dehors d'un stade. Pour les organisateurs, les JO de Paris 2024 resteront dans les annales et Emmanuel Macron, le chef de l'État français, s'en réjouit déjà.
Je peux vous dire qu'au début, cela semblait être une idée folle et pas très sérieuse. Mais nous avons décidé que c'était le bon moment pour proposer cette folle idée et la concrétiser.
Avis partagé par Lamia El Haraj, adjointe à la maire de Paris.
Bien sûr que Paris est prête, au contraire, nous on est extrêmement impatients. Puisque ça fait des années qu'on se prépare.
Mais le chemin était parsemé d'embûches, des élections législatives non concluantes, un gouvernement intérimaire pour éviter le désordre politique pendant les Jeux, sans compter l'incertitude quant aux épreuves de natation dans la Seine, malgré un nettoyage qui a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais la semaine dernière, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a elle-même plongé dans le fleuve. Tout cela alors que le Covid-19, qui a déjà touché le Tour de France, rôde toujours dans les parages, tout comme les menaces de grève. Un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place sur fond de réaction au conflit à Gaza et en Ukraine. Les Français eux-mêmes ont des sentiments mitigés à l'égard de ces Jeux, comme l'explique Blanche Le Ridon, analyste à l'Institut Montaigne.
C'est-à-dire que beaucoup de gens sont plutôt préoccupés par ce qui se passe dans le milieu politique, par les questions de pouvoir d'achat, de sécurité. Les Jeux Olympiques en soi les intéressent finalement assez peu. Vous avez quand même, ils sont peu nombreux, mais j'en connais certains, qui sont ravis des irréductibles, qui font en sorte d'avoir des places pour un maximum d'épreuves sportives et qui sont très enthousiastes. Mais c'est vrai, à Paris en tout cas, que la majorité est soit dans une situation d'indifférence, soit dans une situation qui frôle l'exaspération parce que énormément de contraintes.
Mais d'autres, comme Jouko Istolainen, sont ravis que leur pays accueille cet événement planétaire.
Ah, très fier, très fier. Je connais que notre maire Anne Hidalgo et Tony Estanguet, qu'ils sont battus depuis très longtemps.
Tout en espérant qu'il n'y ait pas de rabat-joie lors de ces JO, comme une météo calamiteuse, le monde entier a les yeux rivés sur Paris du 26 juillet au 11 août pour cette grande messe sportive qui n'a lieu que tous les 4 ans.
Le journal des Jeux Olympiques, spéciale ouverture, signé Eric Manirakiza.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, des affrontements ont opposé jeudi l'armée malienne et leurs alliés russes à des groupes rebelles près de la frontière avec l'Algérie, ont indiqué l'armée malienne et un porte-parole des rebelles. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans un communiqué publié hier sur X, l'état-major général déclare qu'une patrouille de l'armée a subi une attaque dans la zone de Tinzawaten, à 233 kilomètres au nord-est de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Selon ce communiqué, une vive réaction de l'armée a permis d'infliger une lourde perte à l'ennemi sans donner de précision. Après avoir repris plusieurs localités, l'armée malienne a affirmé lundi avoir pris le contrôle de In Afarak, un autre carrefour commercial au nord-ouest de Tessalit, dans la région de Kidal. Pour sa part, Mohamed El Mahouloud Ramadan, porte-parole d'une alliance de groupes rebelles à dominante Touareg, a affirmé hier que leurs combattants ont fait subir de nombreuses pertes aux mercenaires de Wagner et à l'armée malienne sans donner de bilan précis. Depuis la fin de l'année dernière, des groupes rebelles ont perdu le contrôle de plusieurs localités du nord malien après une offensive de l'armée qui a culminé par la prise de Kidal, berceau de toutes les rébellions Touareg et enjeu de souveraineté pour l'État central.
En Afrique du Sud, la police annonce avoir arrêté 95 Libyens lors d'un raid dans une ferme qui semble avoir été utilisée comme camp militaire. Jacques Aristide.
Les forces de l'ordre sud-africaines ont mené l'opération tôt ce matin près de la ville de White River, à environ 360 kilomètres à l'est de Johannesburg. Le site était présenté comme un camp d'entraînement pour une société de sécurité. Mais à première vue, il s'agit d'une base militaire, indique Donald Mdoulouli, porte-parole de la police. Les 95 personnes appréhendées, toutes de nationalité libyenne, sont arrivées en Afrique du Sud en avril dernier. Ces hommes prétendaient suivre une formation pour devenir agents de sécurité, selon Jackie Macy, le ministre de la Sûreté et de la Sécurité de la province de Mpumalanga. Cependant, ils n'ont pas respecté les conditions fixées dans la délivrance de leur visa, dit-il. Ces Libyens sont soupçonnés d'être liés à de multiples plaintes pour des délits graves, dont harcèlement et viol, déposés par des habitants ces derniers mois. Les autorités interrogent le groupe dans le but de les renvoyer dans leur pays d'origine.
Ici aux États-Unis, deux dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa ont été capturés jeudi au Texas, dans le sud des États-Unis, a annoncé le ministère américain de la Justice. L'arrestation de Joaquim Guzman Lopez, fils du célèbre baron de la drogue El Chapo, et d'Ismael Zambada Garcia, aussi appelé El Mayo, cofondateur du cartel, porte un coup majeur à l'un des réseaux de trafic de drogue les plus puissants du monde. Les deux chefs du cartel ont été, aux nombreuses ramifications internationales, ont été arrêtés à l'atterrissage de leur avion privé au Texas du côté américain de la frontière avec le Mexique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À Milwaukee, dans l'état de Wisconsin, une terre d'accueil pour beaucoup d'Africains qui ont d'abord commencé leur aventure américaine dans de grandes villes, trois membres de la diaspora ouest-africaine ont pris le temps de nous raconter leur parcours aux États-Unis, leur portrait dans ce reportage de Trésor Matondo et Dilly Diko à Milwaukee.
Bienvenue à Racine. Entrez.
Tiernoun Dao est un Sénégalais installé depuis une trentaine d'années dans le Wisconsin avec son épouse et ses deux fils. Un professionnel travaillant dans le domaine de l'informatique et de la géomatique, Tiernoun est arrivé dans le Wisconsin avec une bourse pour jouer au basketball, ce qui, selon lui, a grandement facilité son intégration.
Après les études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré des gens formidables. Des gens de la communauté africaine d'ici, mais aussi des Américains d'ici. Et quand tu viens dans des petits états comme ça, les gens sont beaucoup plus proches, ils sont beaucoup plus gentils. Et surtout dans le Midwest, il y a une expression qu'ils appellent Midwest Nice. Donc les gens sont accueillants.
Ces dernières années, Tierno a tout de même remarqué un certain repli social. Il explique qu'il est désormais plus difficile de venir s'installer aux États-Unis. Le climat politique, les questions autour de l'immigration et la digitalisation des données font qu'il est plus compliqué d'aller à l'aventure, souligne-t-il.
La rhétorique politique actuelle est vraiment anti-immigration et il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui le regrettent. C'est très difficile et c'est très, très, très compliqué.
Khadija Kaba, une Guinéenne ayant des origines ivoiriennes, est propriétaire d'un salon de coiffure à Milwaukee depuis 14 ans. Mère de 4 enfants, veuve, elle mène avec succès 3 activités. Le salon, ses études et un emploi de nuit dans un hôpital. En quittant New York pour Milwaukee, une ville à taille humaine, elle a trouvé un endroit où son intégration a été facile et où elle a pu ouvrir un business.
Depuis que je suis venue aux États-Unis, je fais que la tresse. Milwaukee était facile. Ils ne demandent pas beaucoup de choses comme quand tu es à New York. J'ai déjà mes diplômes de la tresse depuis l'Afrique.
À son arrivée à Milwaukee, Khadija a bénéficié de l'appui d'une communauté africaine déjà bien ancrée. Elle a été accueillie par Youssouf Komara, qui s'est donné pour mission de faire connaître la culture et la musique africaine dans la région.
Au début, c'était tellement dur, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Petit à petit, avec des amis africains qui étudiaient dans le département de African Studies, on a créé quelque chose. On partait trouver quelque part, on leur donne de l'argent, on loue, on vient, on achète des cassettes, on joue la musique africaine.
Après un peu de tâtonnement et quelques ajustements, Youssouf a pu ouvrir le club Timbuktu, qui est devenu un réel succès en proposant de la musique allant de la rumba congolaise à l'afrobeat nigérian. Comme Tierno et Khadija, Youssouf a lui aussi réalisé son rêve américain dans une Amérique aux couleurs africaines.
Le tourisme est devenu un secteur vital pour certaines économies en Afrique et c'est le cas du Sénégal qui reçoit environ 1,5 million de touristes par an pour une cartographie du pays de la Teranga. Écoutons Awa Sow, elle est la présidente du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal.
C'est assez diversifié du nord au sud, de l'ouest à l'est, mais les parties les plus visitées, c'est toujours Dakar et c'est la petite côte, les îles du Saloum qui ont depuis 3 ans quand même été boostées par pas mal de promotions et toujours la Casamance qui reste une des destinations préférées par rapport à son authenticité, à sa culture qui est restée beaucoup plus intacte et aussi l'est du Sénégal, une destination qui monte de plus en plus parce qu'on visite les minorités comme les pays Bassari, les pays Bédic, sur les hauteurs des collines, des démons, des contrefonds, du Fouta Diallo.
Est-ce que vous pourriez nous parler des principaux défis pour développer encore plus le tourisme dans votre pays ?
On est confronté à un problème d'investissement hôtelier parce qu'on n'a pas assez d'hôtels pour pouvoir accueillir les grands événements. Et souvent, nous, on nous demande souvent dans les cotations d'accueillir des grandes conférences de 2000, 3000 personnes, mais malheureusement, on n'a pas assez d'hôtels. Donc, pour vous donner juste un petit exemple, en termes de réceptifs entre Dakar et Sali, la zone la plus touristique, on tourne autour de moins de 800 établissements. Et on a très peu de 4, 5 étoiles. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour se positionner sur le tourisme d'affaires, sur ce que nous appelons le MICE, tout ce qui est meeting, incentive, convention et exhibition. Donc, on a construit des infrastructures de dernière génération en termes de capacité pour accueillir les grandes conférences. On a développé les routes, on a développé les moyens de transport, mais c'est la capacité hôtelière qui fait défaut pour accueillir les grands.
À travers le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, vous entreprenez plusieurs initiatives. Vous essayez de chercher des solutions pour valoriser l'offre touristique du Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de ces initiatives ?
Notre objectif principal, c'est revaloriser l'offre touristique et la diversifier. Parce que bon, c'est vrai que le Sénégal a été longtemps connu comme une destination balnéaire, mais il y a le tourisme d'affaires qui monte en flèche, il y a le tourisme écologique, il y a l'écotourisme, il y a la pêche, la découverte des produits de niche. On a pas mal de choses, des programmes thématiques. Et maintenant, il faudrait que les acteurs soient mis à niveau afin qu'on puisse au moins avoir des offres visibles, diversifiées. Et ça passe par le renforcement de capacités. On fait des éducours pour nos acteurs pour qu'ils connaissent mieux le terrain, qu'ils puissent voir chaque année les produits qui sont créés, les hôtels qui ont été rénovés, d'autres qui ne sont plus aux normes, pour qu'on puisse avoir une offre qualifiée.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique, des soutiens pour que les communautés développent, même au niveau local, le tourisme ?
Depuis quelques années, il y a une volonté politique qui a été affichée, donc avec des instruments d'accompagnement pour les entreprises. On a mis en place le crédit hôtelier et touristique. Il y a certains acteurs qui en ont bénéficié, donc les agences de voyage, les campements, les hôteliers. On a aussi un autre programme pour les toutes petites structures, des structures d'incubation pour pouvoir accompagner les toutes petites entreprises et tout ça en termes de prestataires touristiques. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que le tourisme, c'est un secteur tellement transversal. Et quand ça marche, tous les autres pans de l'économie marchent.
Awa Sow, président du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, répondait aux questions de Nathalie Barge. Au Nigeria, un ingénieur veut conquérir les marchés africains avec sa voiture unique fabriquée dans le pays, démontrant ainsi que l'innovation n'a pas de limite. Le reportage d'Emeka Gibson à Abuja est relaté par Blanche Sanon.
Du croquis au prototype, de la maquette au châssis, les voitures de Jerry Malo témoignent de la créativité et du talent local. Après avoir étudié l'ingénierie automobile à Londres, Malo est retourné dans son pays natal, le Nigeria, en 2017 pour réaliser son rêve d'enfant, devenir un constructeur automobile de premier plan.
There's that need.
Il est nécessaire de produire ce que nous consommons en tenant compte des nombreuses ressources naturelles disponibles au Nigeria et ailleurs. Cela nous motive à voir comment nous pouvons ajouter de la valeur à ces matières premières, les convertir en produits finis prêts à l'emploi. Il n'y a pratiquement aucun composant de véhicule pour lequel nous ne disposons pas de matières premières au Nigeria ou en Afrique.
Jerry travaille actuellement sur deux voitures. Conçues respectivement en 2017 et 2020, les voitures de sport Bernie Puri et Sternum prouvent un concept, une faisabilité et des caractéristiques uniques qui sont conçues pour surmonter les problèmes d'infrastructures routières et électriques en Afrique.
C'est un véhicule conçu pour l'environnement africain. En mode sport, la garde au sol est d'environ 7,6 cm et il suffit d'appuyer un bouton de votre tableau de bord pour passer en mode tout-terrain où vous avez environ 35,6 cm de garde au sol. Nous avons également conçu des véhicules intégrés qui stockent de l'énergie capable d'alimenter votre maison.
En tant qu'économie émergente, l'industrie automobile du Nigeria dépend fortement des importations. Awa Mustafa, économiste de développement basé à Abuja, est d'accord sur le non potentiel économique des marques nationales.
Si nous avons une industrie automobile au Nigeria, ce sera l'occasion de valoriser les matériaux du pays. Cela signifie qu'il y aura une valeur ajoutée dans cette chaîne industrielle. Des emplois seront créés. Parallèlement à la création d'emplois, les compétences seront également améliorées. En fait, nous aurons également la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences.
L'indice mondial de l'innovation classe des pays comme le Nigeria au bas de l'échelle de l'innovation. Joshua Samuel, expert en automobile, dit que le manque d'investissement dans la technologie en est la cause. Il souligne la nécessité de rénover des projets tels que l'industrie sidérurgique d'Ajakuta afin d'accroître l'approvisionnement en matières premières de fabricants comme Jerry Malo.
Si Ajakuta devient opérationnel, imaginez le fer que nous produirons. Vous obtiendrez du fer sur mesure, adapté à vos besoins, parce que c'est notre pays. Avec des industries robustes comme l'automobile, pourquoi aurais-je encore besoin d'une vieille voiture?
Le travail de Malo montre ce qui est possible avec des ressources locales et de la détermination. Mais cela n'a pas été facile. Le projet est confronté à des défis tels que des ressources pour la recherche et des financements limités.
Le gouvernement kényan utilise une nouvelle application mobile pour sensibiliser les jeunes filles à la santé menstruelle grâce à l'application Oki Kenya. Un reportage de Victoria Amunga à Nairobi, le récit est de Dili Diko.
Au centre d'appel de LVCT Health à Nairobi, des employés répondent à des appels téléphoniques et à des SMS provenant de tout le pays. Ils disent que la plupart des questions portent sur la santé reproductive, en particulier sur le cycle menstruel. Selon l'UNICEF, les menstruations sont souvent entourées de secrets et de honte au Kenya. L'agence indique que les adolescentes recherchent souvent des informations à ce sujet en ligne, mais ce qu'elles trouvent n'est pas toujours exact. Pour les aider, le gouvernement kényan, l'UNICEF et LVCT Health ont créé Oki Kenya, une application mobile qui permet aux adolescentes d'apprendre à connaître leur corps en privé.
L'application leur explique qu'avoir ses règles est une chose normale. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Elles pourront savoir où elles peuvent se procurer le produit dont elles ont besoin. C'est aussi un soutien mental, car certaines personnes ne savent pas pourquoi elles ont leurs règles. Elles se demandent pourquoi elles perdent du sang.
Cécilia Lecou est l'une des 8000 personnes qui utilisent l'application. Mère d'un enfant, elle affirme que sa grossesse précoce aurait pu être évitée si elle avait reçu les informations disponibles sur l'application.
Si j'avais eu des informations comme cette application qui peut prédire mes règles, mes jours sans risque et mes jours d'ovulation, je ne serais pas enceinte. Je ne serais pas mère en ce moment.
Selon plusieurs organisations de soins de santé dans le monde, l'abstinence, le fait de s'abstenir de toute forme d'activité sexuelle, est le seul moyen efficace à 100% pour éviter une grossesse. Diverses formes de contraception, telles que l'utilisation de pilules contraceptives ou de préservatifs, réduisent également considérablement les chances de conception. Les utilisatrices d'Oki Kenya peuvent non seulement suivre leur cycle menstruel sur l'application, mais aussi envoyer des SMS ou appeler des mentors et s'informer sur les droits en matière de santé reproductive.
Les mentors sont particulièrement timides lorsqu'il s'agit de parler aux filles de la puberté ou de l'hygiène menstruelle. Vous pouvez imaginer que pour une fille qui vient d'une communauté qui pense que les règles sont un tabou, il n'y a personne pour exprimer à cette fille qu'il s'agit d'un processus biologique naturel.
Au Kenya, 4 adolescentes sur 10 sont enceintes ou ont déjà eu un enfant, selon le ministère de la Santé. Lors d'un entretien téléphonique, la directrice adjointe du ministère, Janet Moulet, a déclaré que la pauvreté et le manque d'éducation, en particulier dans les zones reculées, aggravent la situation. En 2022, l'État a mis en place une politique de santé reproductive sur 10 ans qui prévoit des actions visant à réduire les grossesses chez les adolescentes, comme la promotion des connaissances sur le cycle menstruel et l'utilisation de la contraception. Les autorités kényanes estiment que des outils tels que l'application Oki Kenya aideront les adolescentes à obtenir les informations dont elles ont besoin.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.